7h29 minutes. C'est évidemment la tragédie de Lac-Mégantic qui nous a fait connaître sa mairesse de l'époque, qui est devenue cette figure dominante pendant, évidemment, les semaines qui ont suivi cette catastrophe. Elle est avec nous ce matin pour nous parler de son livre où elle se raconte. Colette Roy-Laroche est avec nous. Madame Laroche, bonjour.
Bonjour.
On va revenir sur les événements de Mégantic. D'accord. Mais d'abord, ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'a surtout frappé en lisant votre livre, c'est le parcours que vous avez eu. Vous êtes issu, comme on dit, des régions, mais du monde rural, là, c'était un peu l'expression. Puis vous avez fait à la fois une carrière comme enseignante puis dans le monde scolaire, mais vous vous êtes affirmée très tôt comme femme pour vous faire respecter. C'était ça votre objectif, je pense.
Tout à fait. En fait, ce rêve-là que j'avais de faire carrière dans l'enseignement m'a été insufflé très jeune, comme... On le décrit si bien dans le livre. Dès l'âge de 6 ans, je rêvais d'être enseignante. Mes enseignantes ont été des modèles pour moi. Et par la suite, j'ai réalisé mon rêve de devenir enseignante. Et en devenant enseignante, j'ai réalisé très tôt, à cette époque, en 1960, que les femmes n'avaient pas le même traitement que les hommes dans le monde de l'éducation. Alors, on ne pouvait pas vraiment... comme femme laïque, accéder à des postes de direction. Et également, j'ai constaté aussi, très jeune enseignante, que même nos conditions de travail et nos salaires étaient vraiment inférieurs à celui de mes collègues masculins.
Mais vous racontez dans le livre qu'il y a un poste qui s'ouvre, par exemple. Et il y a plusieurs femmes qui sont intéressées. Il y a un homme, c'est l'homme qui l'obtient. Que les comités décisionnels sont composés à 100 % d'hommes. On est au début de la Révolution tranquille. Vous vous faufilez dans ce système-là. Ça ne vous a pas découragé à un moment donné de dire « je ne serai jamais capable d'avoir un parcours professionnel »
Je pense que mon éducation à la maison, les valeurs de mes parents et la façon dont mes parents ont fait face à des obstacles ou des difficultés ou des refus, m'ont vraiment permis de me dire à cette époque-là, lorsque nous, les deux femmes que nous étions à aspirer à ce poste de direction, on n'a pas eu notre chance, plutôt que de me révolter ou d'être frustrée, j'ai décidé de regarder en avant et de faire en sorte de faire ma place autrement.
Puis vous l'avez fait.
Et j'ai fait ma place autrement.
Sur le plan personnel, parce que ça, c'est le côté professionnel, donc votre carrière dans le monde de l'éducation, vous vous êtes mariée et oui. Votre conjoint est décédé quelques années après le mariage. Vous étiez enceinte.
2 ans plus tard.
Et il y a eu le diagnostic de cancer. Comment, à l'époque, on fait quand on est monoparental, qu'on a une petite fille à ce moment-là, puis qu'on doit donc s'occuper de la famille, gérer la carrière puis les revenus? Vous étiez vraiment là seule pour faire ça. Avec l'appui des gens, c'est sûr, mais quand même.
Oui, il faut dire que j'étais très bien entourée, mais par ailleurs, je devais moi-même faire face à cette situation qui parfois était vraiment décourageante. Mais en même temps, je voulais non pas me faire vivre par l'aide sociale, c'était ma fierté. J'avais fait beaucoup d'efforts pour réaliser ce rêve d'être enseignante et ma fierté, qui me vient aussi de ma famille, de mes parents, m'indiquait qu'il fallait que je réaliserais ou que je serais capable de passer à travers cette épreuve. Ça a été très difficile. Je vous avoue que j'ai rencontré plusieurs difficultés, mais finalement... même si j'ai trébuché à certaines fois, j'ai quand même réussi à passer à travers en me disant...
Qu'est-ce que vous dites à ces femmes monoparentales qui vous écoutent, là, puis qui, pour toutes sortes de raisons, se retrouvent seules avec 1, 2, 3 enfants, le père est plus ou moins présent ou carrément absent pour toutes sortes de raisons, puis qui sont confrontées aujourd'hui là, au travail, à la famille, aux pressions? Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, je leur dirais que nous avons toutes et tous des forces insoupçonnées pour faire face à ces difficultés. Et aussi, et aussi d'accepter d'être aidé par l'entourage, que ce soit des amis ou de la famille. Et si on n'est pas aidé, ben d'être capable d'aller demander de l'aide pour passer à travers.
Notre invitée ce matin, Colette Roy-Laroche, qui a été mairesse de Lac-Mégantic. Vous avez vécu toutes les réformes en éducation, là, possibles, imaginables, après la Révolution tranquille. Puis... Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces réformes? On a l'impression que... J'ai regardé les titres des mesures annoncées par le gouvernement libéral, par Mme Marois à l'éducation à l'époque. C'est toujours le cœur... L'élève est au cœur des priorités, le savoir. Bon. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'on l'a échappé, vous pensez, au fil des ans?
Les fondements des réformes étaient toujours centrés sur l'élève en principe.
En principe.
En principe.
En pratique.
En pratique, sauf que les changements, soit dans les structures, soit dans les programmes, prenaient tellement d'espace et demandaient tellement d'adaptation de la part des dirigeants, de la part des enseignants, que le bien-être des élèves, la réussite des élèves qui étaient au cœur de ces de toutes ces transformations-là, on a souvent oublié que l'élève là, dans tout ça. Ce qui fait que aujourd'hui, à la maison, à la retraite, bien calmement, quand j'entends encore les changements annoncés, j'espère que un jour on va cesser de changer les structures, de changer les programmes et de penser à l'élève, à l'étudiant. C'est la réussite des enfants. Et aujourd'hui...
Parce que vous venez d'une région où il y avait quand même un taux d'échec scolaire élevé, beaucoup de jeunes qui ne complétaient pas leurs études secondaires, encore moins collégiales. Les garçons, on a vu le taux de décrochage, c'est un phénomène pas juste régional, c'est à travers le Québec. C'est comme si, comme vous dites, avec les changements de structure puis de programme, l'élève, là, puis le garçon en particulier, comment on fait pour le garder accroché à l'école?
Alors, c'est la grande question à laquelle on a encore à trouver la solution aujourd'hui. Puis d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut encore être plus imaginatif et plus inventif pour intéresser les jeunes à l'école. Alors, je pense d'abord, il faut les aimer, les enfants. Il faut aimer nos élèves. Un prof qui aime ses élèves sait les écouter et sait trouver, à mon avis, les façons, les moyens, les stratégies pour l'intéresser. Je pense que le secret, il est dans la classe, avec le prof. Alors, il faut valoriser nos enseignants. Il faut que les enseignants soient aussi admirés des parents, admirés de la direction. Il faut qu'ils soient valorisés au niveau de toute la société. Parce que les enfants, l'école, c'est notre avenir. Je veux dire, notre succès au Québec va passer par l'éducation.
Je vous parle évidemment de la tragédie de Lac-Mégantic. On vous a découvert l'ensemble du Québec, une femme forte devant une telle tragédie. Vous racontez dans le livre que le premier point de presse vous avez donné... L'émotion était quand même forte et que c'était difficile pour vous. Vous avez puisé votre énergie où là, pour être capable de faire face là, et être à la fois devant les caméras, mais en même temps aussi orchestrer avec les autres les opérations de secours?
Vous me posez la question que plusieurs me posent encore. Et je vous avoue que j'ai quelques difficultés à répondre à cette question. Et en ayant accepté... la demande de Denis Martin Chabot d'écrire mon histoire, je pense que à travers ma vie, mes expériences et la façon dont j'ai réussi à passer à travers les difficultés et aussi mon éducation familiale, je pense que les réponses sont là-dedans. C'est comme j'ai développé à travers les années mon leadership comme enseignante, mon leadership comme directrice et mon leadership comme mairesse.
Mais est-ce que je peux dire... Parce que souvent, nous, on regarde ce qui se passe, la tragédie, mais on oublie la suite des choses. Là. Il y a eu toutes sortes de débats à Lac-Mégantic. Et vous racontez, par exemple, quand vous devez prendre la décision de détruire des propriétés. Là, les gens là, qui vous aimaient tant, vous étiez la femme la plus extraordinaire, ils se sont mis à vous haïr profondément là, pour ça.
Bien, et je vous dirais, certains ne me le pardonnent pas encore aujourd'hui. Mais à cette époque, à ce moment-là où nous avions à prendre la difficile décision de démolir ou de ne pas démolir ce qui restait de la tragédie, le conseil municipal a pris tous les avis de tous les experts et nous avons pris cette décision-là.
Trouvez-vous ça injuste, la réaction des gens? Avez-vous gardé un goût amer de votre fin de carrière politique?
À votre question, je n'ose répondre parce que j'ai peur de passer pour une sans cœur, que je ne suis pas.
Non, mais on peut être un peu déçu à tout le moins, là, de dire j'ai donné pas mal, j'ai travaillé fort.
J'ai donné, oui, mais je comprends en même temps.
Okay.
Évidemment, je suis déçu d'avoir déçu que les gens, certains aient aussi mal pris cette nouvelle, mais je comprends ceux qui étaient touchés par cette décision-là, qu'ils n'ont pas vu venir, évidemment, parce que même encore aujourd'hui, c'est des sujets qui alimentent notre communauté.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Ça m'a fait plaisir.
Colette Roy-Laroche, l'ancienne mairesse de Lac-Mégantic, le titre du volume « Mémoire d'une mairesse » et c'est publié aux Éditions de l'Homme, 7h41.